Bienvenue sur les podcasts de Blast, un média indépendant créé pour redonner du souffle à l'information. Blast vous propose un autre regard sur l'actualité, à travers des reportages, des décryptages, des enquêtes et des entretiens que nous avons décidé de convertir ici en podcast. Notre ambition, devenir votre média de référence et ainsi peser dans la bataille de l'information qui s'annonce et qui sera décisive.
Les podcasts de Blast. Un entretien de Salomé Sacquet.
Allons-nous vivre une guerre de l'eau ? La question se pose de plus en plus sérieusement en raison de l'augmentation préoccupante du stress hydrique aux quatre coins du monde, et la France n'est pas épargnée.
33 jours se sont écoulés sans véritable pluie en France, c'est un record historique.
Un quart des habitants de cette petite ville de l'Arizona est à sec.
Après la publication du 6e rapport du GIEC, rappelant qu'il est encore temps d'agir, mais que l'eau, notamment, est déjà un problème majeur.
Le compteur ne cesse d'augmenter, on serait maintenant 25 000 personnes.
C'est le moment d'y aller, sinon ça sera trop tard, vous comprenez ?
Des milliers de personnes avaient alors convergé à travers champs pour s'opposer à ces constructions titanesques. L'objet du conflit, les mégabassines.
Plus d'une trentaine de pays sont menacés à terme par l'épuisement de leurs ressources, ce que les spécialistes appellent le stress hydrique.
Dans une dizaine de villages du Doubs, des camions de ramassage de lait réquisitionnés pour alimenter les habitants en eau potable, comme ici à Valoreille.
En 2002, l'ancien secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan, déclarait « La concurrence féroce que se livrent les pays pour les ressources en eau fait craindre que cet enjeu renferme les germes de conflits violents ». 22 ans plus tard, cette inquiétude est plus présente que jamais, car l'eau potable est de moins en moins disponible et la situation ne va cesser de se dégrader au fur et à mesure que le réchauffement climatique s'intensifie. Sans attendre un futur proche, de fortes tensions sociales se font déjà ressentir dans de nombreux pays à cause des difficultés d'accès à l'eau. Chiffre inquiétant, la moitié de la population mondiale est désormais exposée à la rareté de cette ressource vitale. Alors dans l'émission du jour, nous allons faire le point sur la crise de l'eau au niveau mondial et au niveau français pour essayer de comprendre ce qui va changer exactement, mais nous allons également aborder les différentes solutions qui existent car cette situation est loin d'être une fatalité. Pour en discuter, je reçois le chercheur Simon Porcher qui se pose la question dans un livre au titre évocateur « Allons-nous vers la fin de l'eau ?» Simon Porcher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur, professeur des universités en sciences de gestion à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Vous êtes également l'auteur d'une thèse sur la gestion et la tarification de l'eau potable en France. Et vous venez de publier ce livre, « La fin de l'eau ?», point d'interrogation, aux éditions Fayard. Et alors, au tout début de votre livre, vous expliquez qu'au moment où vous avez commencé votre thèse, en 2009, eh bien, selon vous, l'eau n'intéressait pas grand monde, ou en tout cas pas les médias dans les proportions qu'on connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il est urgent de faire un état des lieux aussi clair que possible des questions relatives à l'eau potable afin que chacun, citoyen, élu et dirigeant, s'empare du sujet. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux citoyens, aux élus et aux dirigeants. Vous écrivez, je cite, que nous nous dirigeons manifestement vers une période difficile quant à l'utilisation de l'eau, alors même qu'une partie de l'humanité n'a pas accès de manière constante et dans de bonnes conditions à cette ressource. Pour vous, il est impératif de placer l'eau au sommet de l'agenda politique. Alors avant qu'on aille plus loin, qu'est-ce qui a changé depuis 2009, depuis le moment où vous avez commencé à travailler sur ces questions-là, en termes d'attention qu'on porte en tant que société à la gestion de l'eau, si on reste en France ?
En France, ce qui a beaucoup changé, c'est que ces 7 dernières années, on a eu des sécheresses régulières. On a eu notamment les sécheresses de 2021, 2022, 2023. Mais déjà en 2016, en 2017, on a eu des périodes de sécheresse. Et puis au niveau mondial aussi, hein, ça influence sur les médias français et sur l'agenda politique français. On a eu des sécheresses, on a eu les feux de forêt en Australie. Donc on a eu des événements climatiques rares, des inondations qui nous poussent aujourd'hui à plus nous intéresser à la gestion de l'eau. Mais c'est vrai qu'en 2009, quand j'ai commencé ma thèse, la gestion de l'eau intéressait moins en France parce qu'on est un pays plutôt humide, justement. On a de l'eau en abondance. Et quand on n'a pas d'eau, on a su l'acheminer, on a su bien la traiter pour donner accès à la population.
Alors, ces dernières années, on en parle quand même de plus en plus. C'est un sujet qui fait régulièrement la une des médias. Il y a déjà plusieurs experts, notamment des hydrologues sur les plateaux de télévision, qui ont publié des livres et qui expliquent ces problèmes de sécheresse. On ne les connaît pas forcément en détail, mais on en a déjà parlé, en tout cas ici à Blast. Je renvoie aux travaux de ma collègue Paloma Moritz, qui a déjà fait deux émissions sur le sujet, une avec Charlène Descollonges, une avec Emma Aziza, où justement, on parle déjà de cette gestion de l'eau et surtout des phénomènes qui entraînent cette raréfaction de cette ressource. Pourquoi décider de publier ce livre aujourd'hui en 2024 ? Qu'est-ce qu'il apporte au débat public ?
Alors, il apporte une perspective qui est nouvelle, c'est que moi, je suis professeur de gestion et donc j'ai travaillé sur la gestion de l'eau et sur sa gouvernance. Et donc, dans ce livre, je m'intéresse essentiellement aux mécanismes économiques qui vont nous permettre de faire face aux pénuries d'eau, et notamment du point de vue du citoyen, mais aussi au changement de modèle économique qu'on doit apporter à différents secteurs, à l'agriculture, à l'industrie, mais aussi aux opérateurs de l'eau potable qui nous distribuent de l'eau potable, à nous en tant que citoyens. Et puis j'arrive aussi avec des propositions sur la gouvernance mondiale de l'eau et la gouvernance des différents usages de l'eau, qu'ils soient agricoles, industriels ou pour l'eau potable, ou même pour laisser de l'eau à la nature, évidemment.
Donc je l'ai dit en introduction, c'est aussi une émission où on va parler de solutions, ou en tout cas de propositions de solutions, pour essayer de faire face à ce problème majeur qui est en train d'être posé à l'humanité, qui est en train d'être posé aussi à la France. Et c'est pas seulement une émission où on va vous casser le moral en vous expliquant qu'il n'y a plus d'eau, mais il faut quand même commencer par là, en revenant un petit peu sur les bases. Vous vous rappelez en début de livre que l'eau douce sous sa forme utilisable et disponible ne représente que 0,5% de l'eau sur Terre. Qu'est-ce que les 99,5% d'eau restante ?
97,5% de l'eau, c'est de l'eau salée, l'eau des océans, des mers. Et puis 2% de l'eau, c'est de l'eau qui n'est pas de l'eau douce, qui n'est pas liquide, donc qui est détenue par exemple dans des glaciers.
Et alors, on le comprend rapidement, le problème aujourd'hui, un des problèmes principaux, ça reste quand même le réchauffement climatique, dont on a encore une fois largement parlé à Blast. Mais quel est l'impact de ce réchauffement climatique sur le cycle de l'eau ? Quels sont les problèmes que ça va nous poser en tant que société ?
Le réchauffement climatique altère le cycle de l'eau, puisque le cycle de l'eau, en fait, c'est tout simplement l'idée que l'eau qui est détenue sur Terre ou dans les océans s'évapore et ensuite se transforme en gouttelettes fines avant de retomber sous forme de pluie sur Terre et donc d'infiltrer les nappes et de nous permettre d'avoir accès à l'eau. Mais ce cycle de l'eau est altéré par le réchauffement climatique puisque l'humidité qu'on a dans l'air est de plus en plus importante, ce qui fait qu'on a des phénomènes de précipitation aussi qui changent, un schéma de précipitation qui change, vont dire les climatologues. Et on a de l'eau, en fait, des pluies diluviennes qui tombent, plus d'eau qui tombe à un moment donné, même si le niveau de précipitation ne change pas sur un territoire. Donc on va juste avoir des pluies qui vont tomber plus rapidement, de façon plus concentrée à un moment donné, et puis à d'autres moments, des périodes de sécheresse.
Oui, c'est ça qui crée ces phénomènes météorologiques extrêmes, ces inondations dont on a entendu parler cet hiver, notamment en France, dans le nord de la France, ces phénomènes météorologiques extrêmes. On peut avoir tendance à penser, quand on voit ça, que c'est bon, on a assez d'eau, et en réalité, vous le précisez, non, ça ne change pas la quantité d'eau qui tombe sur un territoire.
Alors, pas forcément, ça dépend, hein, mais effectivement pas forcément. Mais le problème de l'eau, c'est que sa quantité, en fait, peut varier d'un territoire à l'autre, peut varier d'une saison à l'autre, et sa qualité aussi va varier. Donc, même si on a de l'eau disponible, elle peut être très polluée. Et ça aussi, c'est un des effets du réchauffement climatique, puisque quand on a moins d'eau, elle concentre aussi plus de polluants. Et donc, elle ne sera peut-être pas accessible pour une consommation ou pour un usage agricole ou industriel.
Et vous l'expliquez dès le début, ça pose des problèmes en termes de production agricole et donc de sécurité alimentaire ?
Potentiellement, oui, parce que l'eau qu'on a est de moins bonne qualité. Donc, elle contient plus de polluants, plus de bactéries, hein, qui sont liées aussi à ces phénomènes d'inondation ou de sécheresse. Et donc, ça pose des problèmes, effectivement, pour l'usage agricole, mais aussi, in fine, pour l'usage humain, parce qu'il faudra plus la traiter pour la rendre potable. Ça va coûter plus cher, ça va limiter l'accès à l'eau potable pour une certaine frange de la population. Et puis, on se retrouve, effectivement, avec une eau potable qui est de moins bonne qualité en général.
En tout cas, nous, on a été habitués à avoir de l'eau potable à volonté. À part quelques exceptions, en France, on a grandi avec cette idée-là. Ça n'a absolument pas toujours été le cas à travers le monde. Ce n'est toujours pas le cas à travers le monde. Et c'est un accès qui est en train de devenir un privilège, enfin, qui a toujours été un privilège, mais qui est en train de devenir, en tout cas, de plus en plus rare. Vous rappelez que plus d'un quart de la population mondiale n'a toujours pas un accès régulier à de l'eau potable, un chiffre qui atteint les 70% en Afrique subsaharienne. En tout, au moins 1,2 million millions de personnes meurent chaque année à cause de l'eau insalubre. Un enfant de moins de 5 ans meurt toutes les 5 secondes à cause de l'eau contaminée. Quels sont les problèmes causés par cet accès à l'eau limitée? Parce qu'on se représente, encore une fois, des personnes qui n'ont pas juste l'eau qui coule du robinet, mais vous expliquez au début du livre que c'est un problème beaucoup plus large qui touche beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne.
Effectivement, le manque d'eau douce, ça a des coûts économiques. Sans eau douce, il n'y a pas d'agriculture, donc on ne peut pas nourrir la planète. Il n'y a pas d'industrie non plus. Chez nous, quand même, l'essentiel de l'eau douce qui est prélevée, ça sert à refroidir les centrales nucléaires, donc à faire en sorte qu'on ait de l'électricité, si je fais un peu simple. Et puis, il y a des coûts sociaux et des coûts humains. La mortalité qui est liée à l'eau insalubre, c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Donc, quand on parle de mortalité liée à l'eau, on parle évidemment de diarrhée, mais aussi du choléra, de la typhoïde, de l'hépatite A, donc tout un tas de maladies qui sont ingérées via l'eau. Louis Pasteur disait d'ailleurs, on boit 90% de nos maladies. Et puis, il y a aussi évidemment des coûts climatiques. Quand il n'y a pas d'eau, la nature n'a pas d'eau, donc il n'y a plus de biodiversité. On voit une dégradation de la biodiversité dans les zones de sécheresse. Il y a des coûts sanitaires, des coûts humains. On n'a plus de dignité si on n'a plus accès à l'hygiène. Et puis, il y a des coûts pour la paix aussi. Ça peut entraîner des conflits de différentes natures.
On reviendra un petit peu sur les tensions géopolitiques justement que ça peut causer. J'aimerais qu'on revienne sur le territoire français, car si on parle évidemment de ce qui se passe à l'international, des pays dits des pays en développement qui n'ont pas accès à l'eau potable, en France, on a déjà des problèmes d'eau, encore une fois, qu'on a déjà évoqué. En France, en 2022, 93 départements ont connu des mesures de restriction d'eau. Plus de 1000 communes ont subi des ruptures d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il y a eu des endroits où vraiment on n'avait plus d'eau potable. En février 2023, 80% des nappes phréatiques étaient en dessous de leur remplissage normal. Vous écrivez, c'est du jamais vu. Et à l'automne de la même année 2023, lors de précipitations records, des inondations historiques ont touché le nord du pays. Bon, là, je pense qu'encore une fois, on s'en souvient tous. Les nappes se sont alors rechargées, mais certaines plus vite que d'autres, renforçant les inégalités territoriales en matière de ressources hydriques. C'est avec ces phénomènes météorologiques qu'il faudra de plus en plus composer dans le futur. La gestion de l'eau devient difficile, c'est ce que vous écrivez. Évidemment, la question qu'on se pose, alors vous n'êtes pas devin, mais c'est quand même à quoi va ressembler notre futur en France, à quel point on est menacé sur notre territoire par ces pénuries d'eau qui vont, et ces phénomènes météorologiques extrêmes, mais ici on va plus parler des pénuries d'eau, qui vont devenir de plus en plus intenses à mesure que les années vont passer.
Alors, tout dépend de là où on se situe en France, mais c'est difficile de faire des prévisions, et les prévisions météo sont encore plus difficiles parce que rien n'est plus incertain que la météo. Mais si on regarde sur le long terme, le bassin méditerranéen, qui est déjà une zone sèche et qui est en train de se transformer quasiment pour certaines parties en zone désertique, va être de plus en plus frappé par des périodes de sécheresse qui seront de plus en plus longues. Les estimations de Météo France, c'est qu'on va avoir parfois 30 jours de sécheresse en été dans le bassin méditerranéen d'ici à 2050. Et puis, à l'inverse, quand on regarde le nord de la France, vous prenez les Hauts-de-France, vous prenez l'est de la France, là, on va avoir peut-être plus de précipitations. Donc, c'est ça aussi qui rend la gestion de l'eau difficile, c'est que selon le territoire où on est, selon la saison dans laquelle on est, on ne va pas avoir la même quantité d'eau et on va devoir adapter les systèmes de façon différente selon les territoires.
Donc, pour ça, il va falloir mettre en place des organisations, une gestion de l'eau qui, justement, va nous permettre toutes et tous de quand même continuer à accéder à de l'eau potable. Vous vous dites que l'un des dangers des pénuries d'eau, c'est d'accentuer les inégalités. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les premiers à souffrir du manque d'eau sont les plus démunis. La pénurie d'eau, ça va se traduire par une augmentation du prix de l'eau. C'est ce qu'on voit aux États-Unis dans les zones sèches. On a un prix de l'eau qui a doublé dans certaines villes. Et donc, en France, c'est un peu pareil. Si on a moins d'eau, elle devient plus rare, le prix va augmenter. Ou si on a une eau qui est de moins bonne qualité, il faut plus la traiter, donc son prix va augmenter. Donc, on va se retrouver avec une augmentation du prix. Et l'augmentation du prix, ça va frapper essentiellement les familles nombreuses, les plus pauvres.
Quand on parle d'augmentation du prix, on parle de quelle dimension potentiellement ? C'est quoi ? C'est des prix qui doublent, qui triplent ?
Alors là, les estimations qu'on a, c'est que les prix vont augmenter de 50% d'ici à 2030. C'est juste, d'ailleurs, les prix ne suivent que l'augmentation de l'inflation, en réalité. Mais si on prend maintenant, si on ajoute un phénomène de rareté, des investissements nécessaires sur les réseaux pour diminuer les fuites, pour adapter les réseaux aussi aux inondations, aux pluies diluviennes, là, on va avoir une explosion des prix, on peut avoir un doublement des prix. C'est ce qu'on voit aux États-Unis dans les années 2010, avec des conséquences qui sont catastrophiques, parce que ça fait que beaucoup de personnes n'ont plus vraiment accès à l'eau dans des bonnes conditions, peuvent remettre en question leur hygiène ou leur dignité humaine pour économiser l'eau, et avec des conséquences aussi sociales, parce que si vous ne pouvez pas payer vos factures d'eau, aux États-Unis en tout cas, on peut vous retirer, par exemple, la garde des enfants. En France, c'est un petit peu différent, où on vous garantit l'accès à l'eau, même si vous ne payez pas votre facture, mais ce droit pourrait être remis en cause en période de sécheresse, on n'en sait rien.
En tout cas, ce que vous montrez rapidement dans le livre, une fois qu'on a établi un peu ce constat de tension autour des questions d'eau, c'est que ça crée des tensions sociales. Et en France, encore une fois, on a déjà connu ça. On ne parle même pas de quelque chose qui va se dérouler dans le futur, même si on sait que ça va s'intensifier. Il y a évidemment eu cet épisode de tensions extrêmes, d'ailleurs de tensions politiques aussi, autour des méga-bassines. On en avait beaucoup parlé à Blast, on avait produit des documentaires. Vous, vous revenez là-dessus, vous expliquez que... donc on va revenir rapidement sur ce que sont les méga-bassines, essentiellement utilisées pour l'irrigation. Leur principe est simple, il suffit de créer des réservoirs d'eau remplis en hiver en dérivant des cours d'eau ou en pompant dans les rivières et les nappes. L'eau stockée en hiver est utilisée en été, ce qui permet d'éviter de prélever de l'eau dans le milieu en période estivale, tout en maintenant la production agricole. Leur taille s'étend en moyenne sur 8 hectares, ce qui correspond à 10 terrains de football. C'est pour ça qu'on parle de méga-bassines, on voit sur les images, c'est vraiment des très très grandes surfaces d'eau. Et vous le précisez, une telle pratique est soumise à autorisation et peut être subventionnée par de l'argent public. Alors quand on lit la définition, bon, évidemment, on peut avoir tendance à se dire « mais très bonne idée, pourquoi ne pas faire ça ?» Pourquoi est-ce que ça a créé autant de... Pourquoi ça a cristallisé autant de mécontentement, cette question des méga-bassines ?
Parce que l'eau est très politique. Et donc les méga-bassines, c'est typiquement un conflit politique autour de l'eau. Moi, quand j'ai commencé ma thèse il y a 15 ans, le gros conflit politique autour de l'eau, c'était la privatisation de la gestion de l'eau potable. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un glissement vers un conflit qui s'accentue autour de la consommation d'eau en général. Donc on va avoir ceux qui consomment beaucoup d'eau et qui ne veulent pas changer leurs habitudes en termes de consommation, l'agriculture extensive, les méga-usines aussi, la méga-industrie... les riches qui surconsommeraient de l'eau, les golfs, les piscines, etc. Et puis d'un autre côté, ceux qui vous disent « non, il faut s'adapter au changement climatique et il faut moins consommer d'eau ». Donc on est vraiment dans ce type de conflit politique où là, on a des méga-bassines qui sont une maladaptation. C'est très bien, ça permet aux agriculteurs de continuer à faire de l'irrigation, mais on voit bien que c'est
à certains
solution.
Agriculteurs, hein, d'ailleurs,
à certains
pas
agriculteurs,
tous.
Très exactement, mais on voit bien que c'est une solution de court terme parce qu'on joue sur l'offre à la marge, mais... On ne demande pas aux agriculteurs de diminuer leur demande d'eau, et notamment dans les périodes estivales où il y a le moins d'eau.
Ou même de changer aussi de modèle agricole, de changer de culture, de réellement transformer leur modèle pour que ce soit soutenable sur le long terme. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on fait. On leur dit juste, on vous garde de l'eau et vous pouvez continuer à faire la même chose qu'avant.
Exactement. Ça, c'est une maladaptation parce qu'on envoie le message aux agriculteurs qui peuvent continuer à avoir la même demande d'eau. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, on doit diminuer la demande d'eau pour tout le monde.
Je voulais revenir sur cet épisode des méga-bassines, pas trop en détail non plus, parce qu'encore une fois, il y a du contenu disponible là-dessus, mais parce que c'est vraiment ce qui nous montre le niveau de violence qui peut émerger de ce type de conflit politique qui va naître de la gestion, ou de la non-gestion, justement, de ces pénuries d'eau. Et là, on l'a vu à l'échelle française, sur un petit territoire. On a vu le degré de violence politique auquel on est arrivé, avec un ministre de l'Intérieur, notamment, qui a parlé d'éco-terroristes. C'est allé très, très loin. Il y a des militants qui ont été arrêtés. Il y a eu des personnes très gravement blessées. Donc... ça va créer des tensions politiques, et c'est le titre un petit peu de cette vidéo. C'est est-ce qu'on se dirige vers une guerre de l'eau ? Parce que si ça arrive dans les Deux-Sèvres, en France, et qu'on arrive déjà à ce degré de violence, qu'est-ce qui va se passer à travers le monde quand ça va concerner des pays entiers, quand il va y avoir des millions de personnes qui vont être menacées dans leur accès à de l'eau potable ? Et alors, vous consacrez tout un chapitre à cette question de la potentielle guerre de l'eau. Vous écrivez que l'histoire de l'eau est autant une histoire de coopération que de conflit. Alors vous avez tout un retour en arrière sur comment on a construit des coopérations ou des conflits justement autour de cette question de la gestion de l'eau. Vous rappelez quand même que 30% des frontières entre États sont des cours d'eau. L'eau est une frontière et représente donc un potentiel de coopération autant qu'elle peut être une source de conflit. Disponible en quantité fixe à un endroit donné, la confiscation de l'eau, sa surutilisation ou sa pollution peuvent priver d'autres d'y avoir accès. Donc l'eau porte en elle-même le conflit d'usage. Et vous le rappelez quand même, il n'est pas rare d'entendre des prophéties autour des guerres de l'eau. Si les guerres du XXe siècle ont été menées pour le pétrole, les guerres du XXIe siècle auront l'eau pour enjeu, avait déclaré en 1995, donc ça commence à dater, le vice-président de la Banque mondiale. Dans l'histoire, l'eau est une véritable variable des guerres dont elle est tantôt l'outil, tantôt la victime. Et la question qu'on se pose quand on voit qu'on nous a déjà annoncé plusieurs fois des guerres de l'eau, c'est est-ce que c'est pas un peu une une annonce extravagante, ou est-ce que selon vous, on se dirige vraiment vers des conflits de très grande ampleur autour de la gestion de l'eau à l'échelle internationale dans les années à venir ?
Alors, c'était une annonce extravagante. C'est quelque chose qui a été annoncé à plusieurs reprises. Mais on sent quand même que l'eau porte en elle-même les germes de conflits violents, disait Kofi Annan. Voilà, on sent qu'on peut avoir des conflits violents, mais ces conflits violents sont plutôt au niveau de l'usage, donc plutôt au niveau d'un territoire. Néanmoins, aujourd'hui, à mesure qu'on a de moins en moins d'eau, on a envie de s'accaparer l'eau du voisin. Et c'est là qu'on peut entrer dans des conflits inter-États. Même si actuellement, les États se sont toujours engagés à laisser de l'eau à leurs voisins, dans le futur, ils vont peut-être être tentés de s'accaparer l'eau de leurs voisins pour alimenter leur développement économique, puis alimenter leur population en eau potable. Mais pour l'instant, en fait, l'eau, c'est un petit peu comme la dissuasion nucléaire. On s'est refusé totalement à priver son voisin d'avoir accès à l'eau, mais on voit qu'il y a des tensions entre l'Éthiopie et l'Égypte, entre la Chine et l'Inde. Certains pays soupçonnent leurs voisins de capturer les nuages pour avoir plus de précipitations sur leur territoire. Donc, on voit qu'il y a ces tensions autour de l'eau et il faut anticiper un éventuel conflit inter-État sur l'eau, d'où l'idée aussi d'avoir une gouvernance mondiale sur l'eau qui inclut aussi le cycle de l'eau dans cette gouvernance mondiale, de manière à anticiper ces éventuels conflits qui peuvent être multiples, hein, aussi bien sur le cours d'eau que sur le cycle de l'eau, que sur les aquifères transfrontaliers ou sur les nappes transfrontalières qui sont très très mal couverts par le droit international.
On peut imaginer des véritables guerres de l'eau dans un futur proche, si on n'a pas cette gouvernance mondiale qui se met en place. On reviendra un petit peu plus sur ce que vous proposez justement, mais est-ce que c'est réaliste ?
Ben, en fait, c'est réaliste. C'est juste que ça n'a pas encore eu lieu. L'eau, c'est plutôt effectivement une variable d'un conflit, c'est plutôt la victime d'un conflit.
Parce qu'il y a déjà eu des exemples quand même d'accaparement d'eau par un pays. On peut se dire que ça peut arriver bientôt dans d'autres endroits.
Effectivement, oui. Non, mais il y a toujours des tensions autour de l'eau, mais on a toujours laissé assez d'eau à son voisin pour qu'il puisse survivre. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on ne va pas s'approprier l'ensemble de l'eau ? Parce que vu que les sécheresses sont globales, vu que le cycle de l'eau est altéré par le réchauffement climatique, la tentation en fait de s'accaparer l'eau du voisin devient plus forte parce que les gains de la paix par rapport au coût de ne pas avoir d'eau, les gains de la paix sont beaucoup plus faibles que les coûts de ne pas avoir d'eau.
Et donc vous, pour faire face justement à cette crise de l'eau qui a déjà commencé et qui va s'intensifier, vous l'avez mentionné, vous proposez un modèle de gouvernance mondiale, vous appelez en réalité à créer une sorte de COP de l'eau, puisqu'on fait ça pour le climat, mais il faudrait aussi faire ça pour l'eau potable. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà commencé au vu de l'importance de cet enjeu ?
Alors, c'est une bonne question. Effectivement, il y a des COP sur l'eau, sur la biodiversité et sur la désertification. Et en fait, je pense que quand on a créé ces trois COP, on a imaginé que la désertification récupérait l'eau, ce qui n'a pas été le cas. La désertification des territoires s'intéresse essentiellement aux problèmes de gestion des forêts. Donc, on se retrouve en fait avec l'eau qui n'est pas considérée au niveau international. Et en plus, l'eau, c'est quelque chose de complexe. Donc, souvent, ça a été évité par le plus haut niveau politique parce que ça inclut à la fois le cycle de l'eau, les ressources en eau, l'accès à l'eau potable universelle, dont beaucoup d'États ne veulent pas entendre parler parce que ça engage leurs responsabilités aussi. Donc, on a des questions qui sont complexes, mais il faudrait toutes les fusionner justement pour éviter les conflits sur l'eau, faire en sorte que les États signent des traités sur la gestion des cours d'eau internationaux. Aujourd'hui, quand on a des cours d'eau internationaux, souvent, on s'arrange avec son voisin, mais quand on a des fleuves qui traversent 10 États, tous les États ne sont pas forcément signataires des traités sur les cours d'eau. Donc, l'idée d'avoir une organisation internationale, une maison à l'ONU, donc une forme d'organisation qui pourrait gérer tous ces conflits et toutes ces problématiques liées à l'eau, ça me semble être une bonne idée. Et ça permettrait aussi d'avoir une évidence scientifique sur les modifications du cycle de l'eau, sur l'impact du réchauffement climatique sur les ressources en eau.
Un GIEC de l'eau, en réalité.
Il faudrait un groupe d'experts sur l'eau, il faudrait une conférence des parties sur l'eau, il faudrait un traité global sur l'eau, mais qui prenne bien l'eau, qui prenne bien en compte l'eau dans toutes ces dimensions.
Et la France, par exemple, pourrait initier ce type de proposition ?
Tout à fait, la France devrait initier ce type de proposition avec l'Union européenne.
Et alors, si on se penche un petit peu plus sur les solutions, puisque c'est aussi la promesse de cette émission, c'est d'aller sur le point lent économique et philosophique, parce qu'il y a également des considérations très philosophiques. Je vais reciter une partie de votre livre. Vous dites « Nous devons à Garrett Hardin, éminent écologiste américain, l'expression « tragédie des communs », plus tard formalisée par Elinor Ostrom. Ce concept repose sur l'idée que lorsque plusieurs utilisateurs ont accès libre à une ressource commune, ils agissent selon leurs intérêts personnels et ont ont tendance à en abuser au risque de la faire disparaître pour l'ensemble des bénéficiaires. C'est le paradoxe de l'action collective évoqué par l'économiste Mancur Olson dans son ouvrage « La logique de l'action collective ». Chacun se préoccupe de son bien-être individuel et tend à surconsommer la ressource, comptant sur les autres pour en limiter l'usage. Deux solutions opposées sont alors apparues naturellement, la nationalisation et la privatisation de la ressource commune. Qu'est-ce qui est le plus désirable ? Est-ce qu'il faut nationaliser ou est-ce qu'il faut privatiser aujourd'hui l'eau pour réussir à avoir une gestion optimale ?
Elinor Ostrom, qui est la première femme à avoir le prix Nobel d'économie, dit « Non, il faut ni privatiser ni nationaliser, il faut une solution hybride. » Alors, une solution hybride, ça veut dire qu'on va laisser les acteurs qui gèrent la ressource de l'eau, hein, ou qui sont les usagers de la ressource en eau, négocier entre eux de manière à définir les règles d'usage de l'eau. Ça marche très bien au niveau d'un territoire. Donc, on peut avoir des agriculteurs qui s'entendent entre eux pour se partager l'eau, qui ensuite vont négocier avec d'autres usagers, notamment de l'eau potable, pour l'usage de l'eau. Par contre, ça devient plus compliqué sur des grandes sociétés ou sur des territoires beaucoup plus grands. Alors, les économistes ont souvent dit, bah, du coup, il faudrait tout privatiser. C'est très simple, parce que si on privatise les ressources en eau, hein, donc ce qui est quand même quelque chose d'inconcevable, en fait, hein, puisque l'eau, c'est une ressource commune, c'est le patrimoine de la nation, donc ce n'est pas du tout ce qu'on a fait en France. Mais si on privatise la ressource en eau, l'entreprise privée va très bien gérer les usagers en leur faisant payer leur prélèvement d'eau, et donc ça va être géré de façon optimale. Si on va dans le public, ça ne va pas être géré de façon optimale, puisque là, le public va très mal gérer.
Oui, c'est cette idée que le public serait par nature moins efficient dans la gestion, et donc que le privé aurait quelque chose de beaucoup plus efficace, plus logique, et donc que ce serait donner la possibilité à une meilleure redistribution. Ça vaut pour l'eau, mais ça vaut pour beaucoup d'autres ressources, hein, où il y a ce débat en permanence. Quelle part on doit laisser au privé, en réalité ?
Alors, ce qu'on a fait en France, c'est que la ressource en eau, du coup, n'appartient à personne. Même quand vous avez de l'eau sur un terrain privé, vous ne pouvez pas vous l'approprier à 100%. Donc, on reste sur un régime, en fait, qui est un peu particulier, qui fait qu'on ne peut pas se l'accaparer, quoi qu'il arrive. Donc, c'est le patrimoine commun de la nation, l'eau, patrimoine commun de la nation. C'est cette idée, mais...
Mais ce n'est pas comme ça dans tous les pays.
Alors, ce n'est pas forcément comme ça dans tous les pays. Et puis, ça appelle aussi à des débats de juristes très importants parce que, évidemment, on peut avoir une ressource qui appartient à un particulier, donc qui est privée, mais qui, pour le bien commun de la nation, peut être mobilisée à tout moment pour la chose publique. Donc là, il y a un débat de juristes dans lequel je ne rentre pas dans le livre parce que c'est assez technique. Mais par contre, ce qu'on a fait en France, du coup, on a l'eau ressource patrimoine commun de la nation. On a le réseau d'eau qui appartient à la collectivité publique. Et par contre, on a l'eau potable qui est traitée, qui devient un bien marchand, mais on va dire pas comme les autres, parce qu'il faut en garantir l'accès à tout le monde. Donc, quand on a des opérateurs privés en France, quand on a des gestionnaires privés du réseau, des entreprises privées qui vont gérer le réseau d'eau potable, elles sont nommées par la collectivité pour gérer le service des eaux, mais à aucun moment elles détiennent l'infrastructure ou elles ne détiennent la ressource en eau. Et ça, c'est très important. Elles ne font que nous distribuer le service et nous tarifer, en fait, l'eau potable.
Et... Ce que vous soulignez aussi, c'est qu'en réalité, peut-être je pose la question à celles et ceux qui nous regardent, est-ce que vous connaissez le prix de votre facture d'eau ? Et vous rappelez que 57% des ménages français n'ont aucune idée du prix de l'eau et que plus d'un tiers ne regarde absolument jamais le prix de leur facture d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est peu cher, en fait. On a rendu ça peu cher. Alors évidemment, dans les gens qui regardent, on imagine évidemment qu'il y a les ménages les plus modestes. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est habitué comme ça à se dire que ça venait, que ça, sans mauvais jeu de mots, que ça coulait de source et qu'on devait avoir ça chez nous et que on ne comptait même pas dans nos dépenses ?
Effectivement, l'eau n'est pas assez chère en France. Alors, ça, c'est plutôt une qualité. Hein. Ça veut dire qu'on a peut-être une eau qui n'est pas trop polluée et qui ne doit pas être traitée. Mais on voit aussi qu'on a un manque d'investissement sur le réseau et donc on a peut-être gardé le prix de l'eau artificiellement peu élevé ces dernières années.
Et qui paye pour ça, alors ?
Alors, qui va payer ? C'est en fait nous, souvent usagers de l'eau potable, malheureusement. Et c'est là où aussi on a un problème. C'est comme on consomme l'eau potable, en fait, in fine, on risque de payer sur les investissements du réseau. Donc ça, c'est un vrai problème. Si par exemple, on doit réparer les fuites du réseau, si on doit les adapter au changement climatique, on va augmenter le prix de l'eau pour le consommateur. Et donc, c'est le consommateur qui va subir ces hausses de tarifs.
Pour l'instant, ce tarif est plutôt bas, en tout cas.
Pour l'instant, ce tarif est plutôt bas, très probablement parce que aussi on a sous-investi sur le réseau. Ou alors peut-être parfois à certains endroits, hein, parce que le tarif est différent d'une commune à l'autre, mais à certains endroits parce qu'on avait de l'eau de bonne qualité. Et puis aussi, beaucoup de ménages ne reçoivent pas du tout de facture d'eau. Et ça, c'est très important de le dire. Quand vous habitez dans un immeuble collectif, en zone urbaine, par exemple, bien souvent, vous ne recevez pas de facture d'eau puisque vous payez l'eau dans vos charges. Donc, vous n'avez aucune idée de votre consommation d'eau. Ce qui est très paradoxal à l'ère du numérique parce qu'on sait combien de pas on marche, on sait combien de calories on dépense, on sait combien d'heures on dort, mais on n'a aucune idée du nombre de litres d'eau qu'on a consommé dans une journée.
Là, tout à l'heure, vous avez parlé d'augmentation du prix de l'eau. Évidemment que ça va faire hurler quand on dit ça, surtout si, là, je pense évidemment à toutes les personnes qui sont touchées de plein fouet par l'inflation, qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Si on augmente en plus le prix d'une ressource vitale, ça va être très compliqué. Et pourtant, vous rappelez dans le livre que ça a été un des moyens relativement efficaces de faire baisser la consommation d'eau, puisqu'on l'a dit, il y a ce paradoxe que c'est quand c'est pas cher et que tout le monde y a accès, eh bien, même si on vous dit qu'il faut baisser la consommation de l'eau, en réalité, les individus ont tendance à ne pas le faire à échelle donc individuelle. Vous prenez l'exemple du Danemark, qui a augmenté le prix de l'eau de plus de 50% entre 1994 et 2003 pour tout le monde. Tout le monde, pareil. Ces hausses ont quand même été assorties de campagnes où on expliquait comment baisser sa consommation, comment limiter sa consommation. Et ça a été efficace puisque sur cette période, la consommation globale de l'eau a baissé de 20%. Est-ce que ça, c'est vraiment applicable dans un pays comme le nôtre aujourd'hui où il y a des inégalités qui sont quand même très, très importantes ? Et est-ce que ceux qui, de toute façon, ont les moyens de se payer de l'eau en grande quantité ne vont pas continuer à le faire ?
Alors, il faut être très subtil, effectivement, quand on veut augmenter le prix de l'eau, il faut l'augmenter de façon progressive. Donc, il faut l'augmenter, en fait, il faut que le prix de l'eau augmente avec la consommation du ménage. Plus un ménage consomme, plus il doit payer cher. Ça, je pense que c'est la bonne solution. Mais pour bien appliquer ce tarif progressif, il faut évidemment être en mesure de compter l'eau qui est consommée par un ménage.
Et on ne peut pas ?
Alors, on ne peut pas forcément, pas toujours, en fait, parce que tout le monde n'a pas de compteur. Mais dès qu'on a un compteur, il faut la compter et effectivement avoir une tarification progressive qui soit adaptée aussi selon la taille du ménage. Parce que le problème évidemment de la tarification progressive, c'est qu'évidemment, quand vous êtes une famille nombreuse pauvre, bah, vous allez payer plus cher qu'un célibataire riche. Donc, il faudra donner une cible de consommation par personne. Une consommation normale par personne, c'est à peu près 50 mètres cubes par an. Et au-delà de ces 50 mètres cubes, avoir un tarif là qui est très progressif, de manière à inciter à économiser l'eau.
Est-ce qu'on aurait des pays où ça a été fait, où ça fonctionnait ?
Alors, c'est fait en Californie, par exemple, c'est fait dans de nombreux pays, c'est fait dans quelques villes en France aussi. Mais tout l'enjeu, c'est qu'il faut investir dans les compteurs avant, de manière à bien compter l'eau. Et le problème aussi, c'est qu'il faut venir avec une forme de tarification sociale ou des aides pour aider les ménages les plus pauvres à payer leur facture d'eau. Parce qu'on ne sait pas toujours le nombre de personnes qu'il y a dans un ménage en France. Ça, c'est le problème de la mise en place de cette tarification progressive. Et donc, on va donner un chèque eau, par exemple, une espèce de subvention aux ménages les plus pauvres, de manière à ce qu'ils ne supportent pas des coûts supplémentaires liés à cette augmentation de tarifs progressifs.
Une des autres manières de mieux gérer cette eau qui va, on le rappelle, mais vraiment va manquer. Hein, donc on va être obligé de s'organiser collectivement à l'échelle d'un pays, et là en l'occurrence à l'échelle de la France, pour que tout le monde puisse avoir des moyens de subvenir à ses besoins vitaux. Vous parlez du principe pollueur-payeur, qui, vous le dites, a été transformé en pollueur-payé. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, le problème, effectivement, de l'eau potable, c'est que la plupart des redevances sur l'eau, d'une manière générale, qui servent ensuite à financer des investissements dans le traitement de l'eau potable, par exemple, sont payées par les usagers domestiques, c'est-à-dire par nous qui utilisons l'eau du robinet, alors que l'eau, la source, est plutôt polluée par les industriels et les agricoles, qui s'acquittent d'une part minoritaire en fait, des redevances sur l'eau.
En fait, ce n'est pas nous, avec notre consommation au quotidien, quand on prend nos douches, qui polluons le plus l'eau. C'est vraiment les industriels dans des parts beaucoup plus importantes. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte.
On ne s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, c'est plutôt les agriculteurs et les industriels qui polluent la source d'eau. Nous aussi, on pollue, hein, parce qu'on utilise des cosmétiques, on utilise différents produits, mais ça n'a rien à voir avec la pollution qui est causée par l'agriculture et l'industrie. Et donc, souvent, on parle de pollueurs payés parce qu'en fait, l'agriculture et l'industrie, eux, sont en plus subventionnés parfois pour leurs activités et polluent l'eau et donc devraient aussi supporter une grande partie du coût de dépollution.
Et qu'est-ce que vous préconiseriez en France, là, si vous arriviez demain au gouvernement et que vous vouliez leur donner des conseils pour réformer la manière dont on gère l'eau, par quel bout vous y prendriez ?
Je pense qu'il y a une première chose qui est importante, c'est de changer le modèle économique des opérateurs de l'eau potable. Que ce soit des entreprises publiques ou privées, il faut maintenant que les opérateurs ne soient pas seulement payés par le volume d'eau qu'ils nous vendent, mais aussi par les économies d'eau qu'ils peuvent nous faire faire. Donc on peut équiper les ménages avec des mousseurs, par exemple, pour qu'ils consomment moins d'eau. On peut les sensibiliser, on peut tirer moins d'eau dans les nappes, on peut réparer les fuites. Tout ça, ce sont des solutions qui doivent être mises en place par les opérateurs et il faut trouver un nouveau modèle économique de la gestion de l'eau qui puisse rémunérer les opérateurs sur les économies d'eau qu'ils font et qu'ils nous font faire. Et puis, autre chose qui est importante, c'est qu'il faut désiloter les politiques de l'eau. En France, on pense souvent à la politique de l'eau à côté de la politique d'aménagement du territoire, d'urbanisme, à côté des politiques agricoles. Non, il faut tout reconnecter et intégrer un volet eau pour déshydrater l'économie et rendre l'industrie, l'agriculture plus bleue.
Et aujourd'hui, est-ce que c'est la direction que nous sommes en train de prendre avec le gouvernement actuel ?
Aujourd'hui, malheureusement, on répond aux crises de l'eau alors qu'on a besoin d'un cap. Il faut vraiment qu'on voit à long terme, d'ici à 2050, quel mix hydrique on va avoir, donc quelle solution on va avoir pour stabiliser à peu près l'offre d'eau, comment on va réduire la demande d'eau dans l'agriculture, dans l'industrie et chez les ménages. Donc, il ne faut pas se concentrer seulement sur les ménages, mais c'est important aussi de regarder l'agriculture et l'industrie pour l'adaptation. Comment on va réaménager le territoire pour faire face à l'évolution des précipitations, des inondations. Donc, toutes ces questions se posent et là, on a besoin d'un plan qui soit plus long et qui soit vraiment un cap avec des objectifs intermédiaires, mais qu'on ne soit pas seulement dans la réponse d'une crise, d'une émotion et qu'on ait oublié, parce qu'il a plu cette année, qu'on faisait face à une pénurie d'eau qui est permanente.
Vous parlez de l'industrie, vous l'avez évoqué au début, l'un des endroits qui consomme le plus d'eau, c'est le nucléaire. Or, on est en train d'investir actuellement dans le nucléaire précisément à cause des émissions de CO2 et parce que c'est une manière de produire de l'énergie qui est beaucoup moins ou quasiment pas polluante, qui ne participe pas au réchauffement climatique ou quasiment pas. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement aussi vraiment drastiquement diminuer notre consommation d'électricité pour pouvoir diminuer notre consommation d'eau ?
Aussi, c'est une solution. Alors, le nucléaire ne consomme pas vraiment de l'eau, il prélève de l'eau pour refroidir les centrales et ensuite rejette l'eau dans le milieu naturel. Alors, effectivement, ils doivent la rejeter propre, sauf que parfois, l'eau qui est rejetée est un peu plus chaude, ce qui peut avoir aussi un effet sur les écosystèmes. Mais ils ne font que utiliser l'eau.
Mais ce n'est pas le problème principal, alors. C'est vraiment l'industrie.
Le problème, en fait, aussi des centrales nucléaires, c'est que s'il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau sur lesquels ils font les prélèvements, du coup, il n'y a plus du tout de centrales nucléaires, il n'y a plus d'électricité. Donc, ça pose la question soit d'investir sur les centrales nucléaires dites géothermiques, c'est-à-dire qu'elles vont elles-mêmes se refroidir, mais ça va coûter aussi de l'électricité, soit effectivement de trouver des modèles alternatifs dans lesquels on consomme moins d'eau et moins d'électricité, du coup, pour laisser de l'eau disponible pour refroidir les centrales.
Bien, écoutez, merci beaucoup Simon Porcher d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que votre livre « La fin de l'eau » (?) est disponible aux éditions Fayard.
Merci beaucoup.
Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasteurs et abonnés. Pour nous soutenir, faites un don unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, c'est aussi une web télé, disponible sur YouTube et Peertube, et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.